Le Yiddish aujourd'hui. Chansons, musique, littérature, théâtre, événements, actualités. Avec Astrid Ruf et Annette Fern. Bonjour, je suis seule à nouveau aujourd'hui et je continue mon voyage à travers la comédie musicale. Alors la dernière fois c'était vraiment purement quelque chose de yiddish, quelque chose de juif, puisque c'était à partir du texte de Sholom Aleichem, Thévié le laitier, adapté, réadapté et quand même pas mal transformé, mais enfin l'idée de base y est, en comédie musicale, Fiddler on the Roof, le violon sur le toit. Cette fois-ci, je m'attaque à quelqu'un dont la production est plus loin de l'univers yiddish. Néanmoins, c'est quelqu'un qui était juif, qui ne le revendiquait pas spécialement, mais qui ne le cachait pas non plus, George Gershwin. Alors, George Gershwin était né Gershowitz. Même son prénom était différent. Je ne me rappelle plus, Yehuda ou quelque chose comme ça. Gershwin. Et il a beaucoup collaboré avec son frère, qui s'appelait Ira Gershwin. Ils étaient trois frères et une sœur, et ces deux garçons ont beaucoup travaillé ensemble, donc George Gershwin comme compositeur et Ira comme parolier, ou même créateur de livrets. Et je me suis intéressée plus spécifiquement encore dans l'œuvre pléthorique de George Gershwin, bien qu'il soit mort très jeune, il est mort à l'âge de 37 ans, mais c'est complètement incroyable tout ce qu'il a créé en si peu d'années. Je vais juste citer certaines de ses œuvres, mais vous connaissez, Rhapsody in Blue, Concerto pour piano et orchestre, Un Américain à Paris, encore une autre Rhapsody, Ouverture cubaine, Porgy and Bess, donc c'est de ça que je vais parler surtout. Et beaucoup de comédies musicales, Girl Crazy, The Show is On, The French Doll, Lady Be Good, Shall We Dance, Funny Face, etc. Il a fait une carrière remarquable en commençant en autodidacte au piano, à jouer n'importe quelle mélodie qu'il avait entendue. Il pouvait l'harmoniser, la jouer dans différentes tonalités. Après, il a fait accompagner beaucoup de chanteurs et il a commencé à écrire. Et il a écrit il était vraiment une coqueluche à New York et puis après à Hollywood. Il a écrit pour Ella Fitzgerald, Louis Armstrong. D'ailleurs, nous allons écouter des chansons issues de Porgy and Bess par ces deux interprètes-là. Herbie Hancock, Freddie Astaire, Ginger Rogers, etc. Donc vraiment, il connaissait tout le grand monde de la musique de son époque. Et il a rencontré aussi des musiciens de musique classique, de musique dite savante, comme Ravel et Alban Berg. Il avait vraiment une ouverture sur le monde musical totale. Et sa création s'en ressent. Alors ses dates, il faut quand même parler de ça, 1898-1937, puisqu'il est mort donc prématurément d'une tumeur au cerveau détectée trop tard, mais de toute façon même aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait avec une tumeur au cerveau? Il n'y a malheureusement pas de guérison possible. Donc ce qui m'a intéressé plus qu'autre chose encore, c'est le fait qu'il ait écrit donc à cet opéra « Porgy and Bess », qui se passe dans le milieu des Noirs de Caroline du Sud. Donc, cette pièce a été écrite, cet opéra a été écrite pour des acteurs et chanteurs noirs. Et d'après toutes les vidéos que j'ai pu voir sur YouTube, eh bien, il y a jamais de blancs qui affrontent ce répertoire. En tout cas, en opéra, quand on isole l'une ou l'autre mélodie, oui, on voit, je vous ferai entendre l'une ou l'autre chanteuse ou chanteur qui ne sont pas noirs et qui chantent ce répertoire. Mais en mise en scène, en opéra, quand tout l'opéra est joué, ce sont toujours des musiciens et chanteurs noirs. Donc, quelle est l'histoire de Porgy and Bess? En quelques mots, c'est l'histoire de Porgy, un mendiant noir estropié, on le voit sur la scène, quand c'est mis en scène, on le voit marcher péniblement ou même ne pas marcher, qui vit dans les taudis, donc de Caroline, à Charleston, en Caroline du Sud, et qui tente de sauver Bess, dont il est amoureux, des griffes de Crown, son concubin, et de Sporting Life, un dealer qui voudrait la prostituer. Il est donc amoureux d'elle et il essaye de la sauver. Qu'est-ce que je veux dire encore? Oui, il y a aujourd'hui peut-être que Gershwin serait soupçonné d'être illégitime dans le fait de, alors qu'il n'était pas du tout noir et juif, de s'intéresser à ce microcosme des noirs américains, des afro-américains. Parce qu'il y a au niveau de la prononciation une stylisation, je vais dire, de l'accent noir américain, de ce qu'on pense être l'accent américain ou de ce qu'était l'accent noir américain dans ces années-là, hein, puisque ça se passe en 1930, la pièce, l'opéra. It ain't necessarily so, ou I've got plenty of nothing, nothing, all in nothing. Il n'y a pas de TH, il n'y a pas de G à la fin des mots. Il y a une espèce de simplification de la prononciation, soi-disant, qui était celle des Noirs américains. Et quand il y a des textes, des dialogues, des chansons, ben c'est comme ça qu'ils prononcent l'anglais. Pour nous, ça fait partie du plaisir d'entendre cette langue, de la spécificité. Mais certains peuvent, aujourd'hui, avec la sensibilité actuelle, mal le vivre. Voilà, alors assez parlé, je vais commencer par faire entendre, donc c'est tous des extraits de Porgy and Bess, pour commencer, Summertime, donc le tube de cette pièce, de cet opéra. Alors, la spécificité de Gershwin, d'après ce qui me semble, c'est qu'on peut vraiment l'interpréter de différentes manières, et c'est pour ça que j'ai choisi deux extraits. Vu sa formation d'autodidacte, c'est-à-dire pas de formation, ça veut dire une oreille très souple, très ouverte à tout. Il a entendu du klezmer, il a entendu du jazz, il a entendu de la musique classique, de la musique européenne. Eh bien, son écriture fait que ça peut être interprété de différentes manières. Alors, la première interprétation que je vais vous proposer, c'est Ella Fitzgerald et Louis Armstrong, qui à la fois joue de la trompette et puis après chante. Donc, vous l'avez dans une version un petit peu plus jazz, bien que ce ne soit pas non plus complètement débridé avec plein d'improvisations. Et la deuxième, c'est très classique, dans une autre tonalité très, très aiguë. C'est René Fleming. C'est très beau aussi, mais c'est là, vraiment, on va vers le lyrique, comme si c'était un air d'opéra européen, enfin italien. Voilà. Alors, on commence par Summertime, donc chanté par Ella Fitzgerald et Louis Armstrong. Thank you. Magnifique. Ils sont gâtés là, avec orchestre et piano, la totale. C'est vraiment magnifique. Alors, une version, comme je le disais, très différente par Renée Fleming avec une voix lyrique. C'est une chanteuse qui a chanté tout le grand répertoire de l'opéra italien en particulier. Voilà, Renée Fleming.
Jumping. to the sky.
Voilà, c'était lors de la réception pour le prix Nobel 2006. Je ne sais pas de qui c'était d'ailleurs, je n'ai pas regardé. C'est magnifique aussi, hein, c'est tellement différent. Elle va chercher des aigus, encore plus aigus que celles qui sont dans la partition, parce qu'elle a une telle facilité vocale. Et Renée Fleming, elle a aussi chanté pas mal le jazz. Elle est surtout connue pour avoir chanté le répertoire, le grand répertoire, comme on dit. Mais elle a aussi, à ses débuts, chanté le jazz. Alors, ça explique peut-être pourquoi elle est attirée par ce répertoire aussi. Ce répertoire, elle n'a peut-être pas chanté tout, de Gershwin, mais cette chanson. Il faut dire que dans le répertoire de Gershwin, c'est quand même une des chansons, ou peut-être la chanson la plus vocale, la plus écrite pour une voix travaillée de manière classique. On passe à autre chose. Bess, You is my woman. Évidemment, en anglais, on dit You are my woman. Ça fait partie des petites erreurs que feraient ou que font les Noirs américains, en tout cas dans les années 1930. C'est certainement plus le cas aujourd'hui. Donc, c'est une très belle air aussi qui commence par donc ces. Porgy qui s'adresse à Bess, qui lui dit « You are or you is my woman » et à la fin, elle répond et ça se termine par un très beau duo d'amour. Donc, c'est chanté par Andrea McDonald et Norm Lewis.
Bess, you is my woman now. You is. And you must laugh and sing and dance for two instead of one. One, no wrinkle on your brow, no how, because the sorrow of the past is all done. Oh, Bess, my Bess, the real happiness is just begun.
Porgy, as your woman now, I is, and I ain't never going nowhere. Lest you share the fun. There's no wrinkle on my brow, no harm, 'cause I ain't going. You hear me saying, if you ain't going with you, I'm staying.
In summertime and wintertime, yeah. Bess, you got your man.
Bess,
we
are.
I'm telling you, I keep this vow. Oh, my blessed, we's happy. Now we's one love.
Voilà, très belle voix, autant Oggy que Bess. Et pour finir, je voulais faire entendre cette chanson très connue qu'on isole souvent donc du contexte de la pièce entière de Oggy and Bess entier, It Ain't Necessarily So, qui reprend de manière amusante des éléments de notre histoire biblique, qui parle de David et Goliath, de Jonas avalé par sa baleine, de Moïse né dans ce berceau, dans l'eau, et de Mathusalem qui a vécu 900 ans, en se demandant si tout ça est necessarily so. Est-ce que ça s'est réellement passé comme ça? Une chanson très humoristique, chantée ici par Cab Calloway. Et je vous dis tout de suite Shalom Aleichem et à la semaine prochaine. Et merci Thomas.
Chillin', the devil's a villain. It ain't necessarily so. To get into heaven, don't step on a seven. Live clean, have no faults. I take the gospel whenever it's possible, but with a grain of salt. No girl will give in to no man what is 900 years. I'm preaching this sermon to show it ain't Nessa, ain't Nessa, ain't Nessa, ain't Nessa, ain't Nessa.
Le Yiddish aujourd'hui. Chansons, musique, littérature, théâtre, événements, actualités. Avec Astrid Ruf et Annette Fern.